Legacy, votre rendez-vous culturel autour des cultures africaines, afro-américaines. Un programme présenté par Pauline Robin et diffusé par Radio Campus Angers. Tous les 15 jours, le jeudi, de 19h à 20h.
Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Legacy, le rendez-vous pour discuter autour de la culture africaine et afro-américaine. Et l'émission de ce soir sera consacrée aux cheveux, cheveux afro pour préciser. Mais quelle est son histoire à part entière? Quel genre de relation entretient-on avec? Quel défi a-t-il représenté et représente-t-il encore aujourd'hui? Quel genre de débat sociopolitique engendre-t-il? Et bien c'est ce à quoi on va essayer de répondre aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous présenter tout simplement son histoire. Et ensuite, je reçois Solange Maribé. Bonsoir.
Bonsoir.
Pour qu'elle nous partage son point de vue autour de toutes les questions qui vont être posées ce soir. Et pour ensuite finir sur un temps phare de l'émission, le speed des catégories. This is for legacy. Don't get it twisted now. Look how I put it down. Look how we getting down. Alors pour introduire le sujet, je tenais particulièrement à parler précisément de l'histoire et la signification des tresses africaines. Donc assimilée par certains comme un art, cette technique de coiffure ancestrale, elle prend racine dès la préhistoire. Et pour preuve, il y a des archéologues qui ont retrouvé des statuettes portant cette coiffure justement. Ensuite, dans l'Antiquité et notamment en Égypte, ce type de coiffure comportait une signification assez genrée. Pour les femmes, le fait d'arborer ce genre de coiffure, c'était preuve de luxe et de beauté pour qu'après il y ait eu un but de séduction. Et pour les hommes, cela avait une signification guerrière, représentant force et honneur. De là, la portée n'était pas qu'esthétique, mais elle était aussi identitaire, car elle communiquait tout simplement un statut social. Et à l'inverse, on peut voir que lorsque les marchands rasaient la tête de leurs esclaves, c'était dans un but de déposséder d'une quelconque civilité. Le tressage était très long, il pouvait prendre des heures et voire quelques jours pour les coiffures les plus extravagantes, et c'était en fait un rituel et une occasion de sociabilisation. Ensuite, quant à la période esclavagiste, cette coiffure a pris une dimension plutôt utilitaire car elle a servi aux esclaves à cacher les denrées alimentaires pour tout simplement leur survie. Et c'est ensuite dans les années 1970 que les tresses africaines vont être associées à un mouvement de liberté, de lutte et de réappropriation culturelle grâce aux militants afro-américains. Remise ensuite au bout du jour, elle a pour symbole la revendication de l'héritage passé ainsi que de la fierté noire africaine. Et elle prend pour la suite, et sur ce jusqu'à nos jours, une tournure plus esthétique à partir des années 90-2000 avec la popularisation du rap et du R&B venant des États-Unis. Et c'est là qu'on y ajoute justement des mèches ou des rajouts. Et pour le moment, ça n'a cependant pas résolu les problèmes gravitants autour du cheveu afro et ça n'a pas non plus gommé ses a priori, notamment dans le débat de l'appropriation culturelle. Et en effet, ce genre de coiffure, à la base, elle est protectrice et donc elle protège le cheveu naturel, mais elle ne lui rend pas sa valeur. Et encore aujourd'hui, dans notre société occidentale normée, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ou qui ne peuvent tout simplement pas prendre soin de leurs cheveux car cet accès ne leur est pas totalement garanti. Et nous allons pouvoir discuter de toutes ces répercussions avec l'invité de ce soir, Solange Maribé. Mais avant ça, pause musicale.
Why is it so hard to accept the party is over? You came with your new friends and her mom jeans and her new Vans and she's perfect and I hate it. Oh, so glad you made it. I'm so glad you could come back. Somebody get the tacos. Somebody spark the blunt. Let's start the narcos off at episode one. Bring the gin, got the juice. Bring the sin, got that too. Won't you shut up? No, you're my favorite. Woman up for ya, outside baby. we get so lonely, we pretend that this works. I'm so ashamed of myself, think I need therapy. Sorry, I'm not more attractive. I'm sorry, I'm not more ladylike. I'm sorry, I don't shave my legs at night. I'm sorry, I'm not your baby mama. I'm sorry, you got karma coming to you. Collect your soul, get it right. Say you do, 'cause it's hard enough. You got to treat me like this. Lonely enough to let you treat me like this. Do you really love me, or just wanna love me, dog?
Et c'était Drew Barrymore de Cisei. Ce soir, je suis avec Solange Maribet. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va déjà ?
Très bien, ouais. Merci de l'invitation.
Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà ?
Oui, alors, par quoi commencer ? Donc, j'ai 31 ans, j'habite à Nantes.
Ouais.
J'ai un travail aussi qui œuvre dans le domaine de l'égalité des genres plus précisément, puisque je travaille pour un réseau qui s'appelle She Said So, un réseau qui existe dans 17 pays.
D'accord.
Et donc moi je travaille pour la branche française, donc She Said So France, et ce réseau il réunit des professionnels, femmes, personnes trans et non-binaires de l'industrie de la musique. Donc quand on dit industrie de la musique, c'est vraiment à 360, pas que les artistes, mais aussi les personnes qui bossent en label, qui bossent dans des salles, dans des festivals, à la SACEM, dans des institutions comme ça. Et du coup notre réseau est très très investi sur ces questions-là d'égalité des genres. Et moi je travaille plus spécifiquement sur un annuaire qui s'appelle Majeur et qui vise justement à recenser toutes ces personnes-là. Donc on va dire que professionnellement ça y est, j'ai enfin un métier, je pense, où je réussis à avoir de l'engagement, un peu plus d'engagement.
Ouais.
Donc ça, je suis très contente parce que ça fait quand même quelques années que je suis dans ces réflexions et dans ces tentatives d'action pour lutter contre les discriminations et pour œuvrer pour plus d'égalité dans tous les domaines, pas que l'égalité des genres d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que je suis là ce soir. Parce que voilà, on sait que les discriminations, elles sont aussi d'ordre racial, selon aussi l'orientation sexuelle, le handicap, enfin voilà, plein de choses. Et du coup, on va dire que ça, c'est des thématiques qui sont assez présentes dans ma vie. que j'essaye de, aussi de défendre à ma petite échelle, donc soit dans mon travail, soit dans des activités que je peux avoir à côté, ou soit dans des discussions même que je peux avoir avec des proches ou des gens que je rencontre pour la première fois et avec qui on a des discussions un petit peu animées. Voilà, j'ai encore un peu la force de faire ça. Mais oui, pour me présenter en tout cas, je pense que c'est pas mal de commencer par dire ça, de dire que, on va dire que les réflexions de déconstruction et de lutte sont des choses qui sont présentes chez moi depuis quelques années, pas mal d'années maintenant, et que je suis que je suis contente parce que je réussis à vraiment les porter aujourd'hui à travers mon travail et puis ma vie perso où je suis aussi en impliquée bénévolement. Enfin, je suis militante au planning familial.
D'accord.
Et enfin, militante bénévole. Mais oui, de toute façon, du coup, ça veut dire militante. Et je suis aussi membre d'un collectif de musiciennes pro et amatrices et qui organise notamment des jams en mixité choisie. Donc vraiment sur ces questions d'égalité. Voilà. Donc c'était une très longue présentation, pardon, pour ce monologue. Mais c'était pour redonner un petit peu le cadre de qui je suis actuellement. Quoi.
Ouais. Et cet engagement, du coup, il vient d'où à la base?
Il vient d'où? Eh bien, je pense que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que j'ai grandi en ayant conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que ma manière d'être au monde n'allait pas, que... quand j'étais petite, je faisais partie des petites filles qu'on qualifiait de garçons manqués. Et c'est horrible ce terme maintenant quand on y repense. Je pense que je correspond. Enfin, j'avais pas envie, en tout cas, de rester à la place qu'on m'avait assignée, mais j'y étais quand même parce que je pense que je n'avais pas les outils, les leviers pour décrypter tout ça et pour savoir quoi faire. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de frustration, d'insatisfaction, de souffrance aussi parfois. Et en fait, je pense que j'ai découvert un peu petit à petit, le féminisme, mais plutôt les mouvements féministes, ces questions de déconstruction. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être une des clés.
Ouais.
En m'y intéressant, j'ai compris pas mal de choses et je me suis vraiment plongée dedans. Et en fait, le truc, c'est que quand tu commences à mettre ce qu'on appelle les lunettes féministes, tu n'arrives plus à les enlever et tu vois le monde à travers ce prisme-là. Et c'est un peu une spirale infernale dans le sens où... moi, à mon niveau, quand j'ai commencé à voir tout ce qui se passait en termes de discrimination de genre, ça a débouché très vite sur les discriminations envers les personnes queer, autour de l'orientation sexuelle, autour de l'identité de genre. Et puis après, ça va plus loin sur les questions de handicap, d'agisme, néocolonial aussi. Du coup, c'est vraiment un espèce de millefeuille, plus que millefeuille, je dirais plus. Tu pousses une porte et en fait, derrière, tu vois une autre salle et tu repousses une porte et tu continues ton chemin comme ça. Donc j'ai beaucoup avancé, je pense, dans le sens de j'ai beaucoup appris, je pense, et je continue à apprendre. Ça fait un moment que je suis dedans et parce qu'il y a aussi eu une prise de conscience et qu'on a commencé à vulgariser davantage en fait aussi ces questions-là. Ça m'a aidé à me plonger dedans et à avoir un peu plus d'éléments pour comprendre et répondre et lutter face à toutes ces discriminations. Voilà.
Et d'ailleurs, si on en revient aux cheveux, t'as fait un article dans le magazine Beuglantif.
Oui.
L'association Beuglantine, d'ailleurs, qui est sur Angers. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors... en fait, c'est très drôle parce que... Le cheveu, c'est vraiment, je pense, un sujet qui est hyper intime et tout le monde a une histoire particulière. C'est vraiment c'est une caractéristique visuelle de nous-mêmes. Ouais, voilà. Et quand j'ai vu cet appel à contribution, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que même si je sais que c'est un poncif, tout le monde sait que selon les coiffures que t'as eues, les coupes de cheveux que t'as eues, ça reflète un peu des périodes de ta vie ou de
ta personnalité
ou pour certains ça va être une rébellion face aux parents ou suivre des modes aussi avec le gel ou les décolorations de cheveux pour certaines personnes. Donc je me suis dit c'est un peu un poncif de dire ça et en fait je me suis rendu compte que selon aussi les périodes de ma vie. Et du coup, j'avais un peu des coupes de cheveux, forcément, attitrées à ces périodes de ma vie. J'avais l'impression d'avoir compris quelques trucs de moi-même et de mon rapport à mon corps, à moi, à ma société, à mon éducation. Mmh. Et puis aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais voilà, je suis fille d'immigrée. Donc, il y avait aussi ce truc de... ok, en fait, le cheveu, ça peut illustrer beaucoup de sujets qui sont très politiques et on s'en rend pas forcément compte. Et moi-même, je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, voilà, j'ai voulu parler de ça dans ce long billet où je vais parler à la fois du côté objectivisation, en fait, des filles, des femmes à travers le cheveu. Parce que je me souviens d'un concours de Minimis que j'avais fait un peu à mon insu, où j'avais débarqué et je comprenais pas pourquoi il y avait des filles de mon âge qui avaient 5 ans et qui avaient des super brushings. C'était des trucs que je découvrais aussi. Mais aussi, comme j'ai un cheveu qui est plutôt lisse, mais qui peut un peu boucler. On va dire qu'il a changé au cours de ma vie. Et ça reflète aussi, je trouvais, de manière assez intéressante, même si c'est pas du tout fait exprès, mais ça reflétait ces questionnements identitaires que je pouvais avoir en étant fille d'immigrée, née en France, où j'avais un peu ce truc du cheveu lisse, du cheveu... très, très européen, en fait. Et en même temps, il y avait un peu... des fois, il boucle quand c'est humide. Mais voilà, même mon père, lui, il a les cheveux beaucoup plus frisés que moi. Il met même des petites barrettes quand il a les cheveux mouillés. Enfin, voilà, mes petites barrettes à moi. Donc, je sais que j'ai cet héritage-là aussi.
Ouais.
Et du coup, voilà, c'était un peu cet aller-retour entre l'image que j'essaye d'avoir de personnes, de françaises bien intégrées, entre guillemets, et qui est une petite fille sage avec les cheveux lisses, et où en même temps je me rends compte que y a quelque chose dans mon ADN qui frise.
Ouais.
Et comme je l'ai dit, c'est la génétique qui se rappelle à mon bon souvenir et qui me rappelle que j'ai des origines malgaches. Et que je peux pas lutter contre ça, et qu'en fait c'est aussi une histoire d'acceptation de moi-même, quoi. C'est-à-dire que il y a un lien entre vraiment l'intime et puis l'image aussi que la société nous renvoie, parce qu'en fait ce qui me faisait bizarre, c'est que je ne voyais pas, j'avais pas beaucoup de représentations de personnes racisées, en tout cas à mon époque. J'ai grandi dans les années 90, même s'il y avait la période un peu rap R&B, mais
c'était surtout aux États-Unis.
Aux États-Unis, tout à fait. En France, ça restait quand même assez minoritaire, et du coup, j'avais pas non plus de représentation, de modèle auquel me raccrocher et me dire que en fait, ça, c'est normal et que c'est complètement ok. Donc voilà, il y a un peu tous ces sujets-là, et puis les rapports aussi. Comment est-ce que on peut être réduite à ça, le fait que en tant que adolescente, j'avais l'impression d'être juste des beaux cheveux et qu'en plus je suis vachement rentrée là-dedans parce que je me suis laissée pousser les cheveux très longs jusqu'aux fesses, et parce que je pense que j'avais assimilé le truc que je suis identifiée comme la fille qui a des beaux cheveux noirs longs, du coup je vais garder ça parce que c'est un truc positif sur moi, et c'était vraiment une histoire d'image, quoi, et que j'avais pas du tout conscience que ça peut être très bien d'être très fière de son image, mais en fait on ne peut pas être réduite juste à ça. Et du coup j'étais restée vraiment là-dedans et pendant assez longtemps avant d'en prendre conscience, quoi. Donc voilà, en gros, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cette espèce de mini-essai, de voir comment est-ce qu'il y avait des sujets un peu plus politiques qui pouvaient... dans mon vécu.
Et est-ce que justement, du fait de ton héritage et de tes origines, tes parents ou des gens de ta famille t'ont appris à prendre soin de tes cheveux ou pas du tout ?
Pas tant que ça. En fait, mes deux parents sont malgaches. Ma mère, elle vient, parce que du coup il y a différentes ethnies à Madagascar. Elle vient de ce qu'on appelle l'ethnie des hauts plateaux, les mernes, et c'est des personnes qui ont des cheveux plutôt lisses, assez épais, et donc il n'y a pas forcément de problématique de cheveux crépus. C'est pas du tout ça. Donc j'ai pas eu de transmission là-dessus. Et mon père, lui, il est métis chinois, et son père était chinois et sa mère venait de la côte, donc est côtière, c'est aussi une autre ethnie, avec un cheveu beaucoup plus crépus. pour le coup, qui va ressembler beaucoup plus à, en fait, à, aux cheveux des, du reste du continent africain, en fait. Donc lui, il a un peu un mélange entre les deux, mais en tant que papa, il n'a pas eu... Je pense qu'il était aussi dans ses... comment dire, pour lui, c'était pas un sujet, en fait, de parler de cheveux ou de transmission de, du rapport aux cheveux. Donc, j'ai pas du tout eu de lien là-dessus avec eux. Et en fait, c'est seulement, en, d'ailleurs, en allant à Madagascar que je me suis rendu compte de la diversité aussi des cheveux. Et en voyant des gens de ma famille et qui avaient pas du tout le même cheveux que moi. Enfin, voilà. Mais que oui, en fait, c'était pas du tout un sujet abordé au sein de notre famille, quoi, en France.
Ouais. Donc du coup, est-ce que t'as longtemps galéré à coiffer tes cheveux, à les mettre en forme?
Ça va, franchement ça va, je vais pas du tout me plaindre parce qu'ils étaient plutôt quand même à tendance lisse et c'est juste quand ils étaient longs j'avais plein de nœuds, mais ça c'est parce que je m'en occupais pas du tout, par flemme aussi. Mais donc j'ai pas trop eu de problème, on va dire, pour m'en occuper, donc non, ouais. Je pense par rapport à d'autres cheveux crépus où effectivement il faut un soin supplémentaire et où, comme tu le disais très bien tout à l'heure, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours l'environnement, en tout cas en France, adapté, des coiffeurs, des coiffeuses qui savent coiffer ses cheveux ou des produits adaptés. Enfin, c'est vrai que c'est fou de se rendre compte que ce n'est pas du tout intégré, ce n'est pas pensé, ces personnes-là ne sont pas pensées en fait dans notre système-là en France.
Ouais. Et ben, on a un peu spoilé la deuxième partie de l'interview, mais c'est pas grave. En tout cas, on va faire une petite pause musicale avant de reprendre d'arrache-pied.
Legacy, le rendez-vous culturel afro de Radio Campus Angers. Yeah, I can do anything.
Subpoenas and your misdemeanors was too busy touring out all your arenas. My passport is tatted, it look like it's active. I play on these planes, y'all catch me in traffic. Y'all drag me in court for that shit. Y'all back was after all of these years of drug trafficking, huh? Time to remind me I'm black again, huh? All this talking back, I'm too arrogant, huh? What would you do? You knew you couldn't fail. I have no fear of anything, do everything well. I have no fear of jail, I was born in a trap. I have no fear of death, we all gonna do that. It's just life, I'm just nice. Tonight I might raise my price. Great advice, damn you ho, Jesus Christ.
I can do anything.
My streaming numbers would have put lemonade up on Spotify. Fuck you. Fuck you. You're cool. Fuck you. I'm out. I ain't never seen a ceiling in my whole life. That's word to blue. Freestyling life. Blueprint by my jigger who never cries. I'm so nice. I'm everybody type. Goddamn right. I'm so nice. Jesus Christ. I'm better than the hype. I give you life.
I can do anything.
Y'all just got pebbles. Yeah. I got the rocks and the feathers. Yeah. Ice lightning bolts from the heavens. Yeah. Y'all gon' have to watch those
eat. Stock dump like the doomsday preppers. Anybody ever had an error? Yeah. When things could have been better. Yeah. Feeling like you was on a stretcher. Yeah. And all you remember was the hecklers. Yeah. But the universe lifts that weight. Yeah. Then you shine like a new feather. Yeah. Blessings on blessings.
C'était Nice des The Carters et je suis toujours avec Solange. Tout à l'heure justement on parlait de la relation avec laquelle tu avais avec tes cheveux. Et justement on va passer dans une dimension plus générale, parler des débats qu'il engendre. Et donc maintenant on sait que le cheveu, comme tu l'as dit, il représente un défi d'acceptation en soi. Et d'ailleurs beaucoup de femmes et surtout d'adolescentes ont relations compliquées avec leurs cheveux. Est-ce que tu penses que c'est par souci, enfin d'abord c'est par souci de représentation, mais est-ce que tu penses que ça, la situation est en train de changer?
Alors, grande question. Alors, je suis pas sociologue, donc je vais pas me permettre de tirer des grandes vérités. Et par contre, je pense que ce serait intéressant de faire des études là-dessus aussi, parce que je pense que ça dit beaucoup de choses de notre société. Et voilà, je sais pas si vous le savez, mais on n'a pas le droit de faire d'études et de donner des statistiques ethniques en France. On peut faire des statistiques sur le genre, enfin homme-femme en tout cas. Et voilà, donc toutes les questions d'ethnicité, elles sont pas trop prises en compte en fait, je pense aussi parce que on manque de chiffres là-dessus. Donc je pense voilà, dans une première partie ce serait intéressant peut-être d'avoir des vrais résultats et des vrais témoignages de la part de personnes concernées qui s'expriment. Après j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Que, mine de rien, on a de plus en plus de représentations différentes, beaucoup, en tout cas beaucoup plus variées que moi quand j'étais plus jeune, il y a 10-20 ans. Même on n'a qu'à voir le mouvement Nappy qui a émergé il y a quelques années, où c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de femmes qui portent leurs cheveux afro, donc au naturel, comme on dit. Et que, c'est vrai, moi j'avais eu l'impression, en tout cas dans mes souvenirs, d'avoir plus de personnes, d'avoir plus de femmes qui avaient des tresses ou qui portaient des perruques et tout. Et ce qui est complètement ok, parce qu'en fait, chacune vit ses cheveux et son apparence comme il ou elle l'entend. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Mais je pense que le fait aussi qu'il y ait eu plus de représentations et qu'on commence à parler de ces sujets et de ce qu'ils veulent dire, ça peut un peu alléger d'un poids les plus jeunes, des personnes plus adolescentes qui se disent ok, en fait je peux vivre mon cheveu plus librement et tout ne passe pas par là, mais je pense que ça dit aussi c'est un lien aussi avec le rapport au corps de manière plus générale. C'est vrai que c'est un peu une caractéristique forte en fait du corps noir, le fait d'avoir la peau de couleur plus foncée ou d'avoir des formes qui ne sont pas forcément des formes, caucasiennes. Donc c'est sûr que c'est un sujet dont pas mal de gens se sont emparés et que le fait d'en parler, de dénoncer aussi parfois les discriminations, les violences qui peuvent émaner de ça, ça aide beaucoup les personnes concernées.
Clairement. Et tout à l'heure aussi, on parlait du fait qu'il n'y avait pas toutes les femmes qui avaient accès à des produits pour prendre soin de leurs cheveux. Sachant que c'est connu, mais les femmes sont de grandes consommatrices de produits de beauté, mais elles n'ont pas tout un accès équitable, au final, pour prendre soin de leurs cheveux et même de leur peau, tout simplement. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que ça relève, entre guillemets, d'une hypocrisie?
Alors, je sais pas si c'est une hypocrisie, parce qu'en fait, moi, je le prends vachement comme un message très franc qui dit qu'en fait, c'est la société qui dit on ne vous considère pas. En fait, tu vois, du coup, c'est pas hypocrite, c'est-à-dire que tu vois, il n'y a pas de produit, c'est plus que c'est pas dit avec ces mots-là, mais en fait, moi, je le prends vraiment comme ça, je prends vraiment genre, en fait, non, les corps non blancs, non normés, n'ont pas lieu d'être, on ne pense pas à eux, il n'y a rien qu'à voir dans la mode, du prêt-à-porter, par exemple, les tailles, ça dit des choses, en fait, d'avoir des tailles qui vont seulement de telle taille à telle taille, ça veut dire que les personnes qui fabriquent ces vêtements, ou en tout cas qui sont dans la conception à l'origine, n'imaginent pas qu'il puisse y avoir d'autres corps. Mmh. Ou en tout cas, estiment que ces corps-là ne peuvent pas être habillés.
Ou par d'autres morphologies,
voilà,
etc.
Donc pour moi, c'est la même chose avec, comment dire, quand on a des particularités physiques. Mais tout comme, voilà, si tu en as les cheveux roux, bah, il y a peut-être des choses qui sont adaptées aux cheveux roux. Mmh. Et ben c'est important en fait de penser à tout le monde, parce que sinon ça on reste vraiment dans ce système, comme on aime bien dire, le blanc triarcat, voilà, à la fois patriarcal et très blanc, qui n'est pensé que pour et par les hommes blancs d'ailleurs en majorité. Et qu'en fait c'est vraiment important de sortir de ça. Et je me souviens de, le plus fou, c'est que des fois on met du temps à s'en rendre compte. Je dis ça en me souvenant du coup d'une conversation que j'ai eue avec ma sœur, qui me disait que voilà, quand elle était enceinte, elle devait porter des bas de contention. Et en fait, ça l'avait vachement choquée de se rendre compte qu'il n'y avait pas de bas de contention de sa couleur de peau. Alors qu'en plus, on n'a pas la peau hyper, hyper noire. Hein.
Oui.
Mais du coup, de dire que ce que les marques de collants appellent couleur chair, c'est couleur chair blanche, en fait. Et du coup, ça fait un petit choc aussi de se dire « Ah ouais, ok, j'avais jamais vu ça. Enfin, il faut que je me retrouve à acheter des bas de contention pour me rendre compte aussi de comment est-ce que ce système très blanc, en fait, infuse partout. » quoi. Et du coup, bon, il y a des choses qui commencent à se développer, heureusement.
Quand même, ouais.
Mais c'est vrai que, en fait, ça va être aussi des personnes concernées, mine de rien, qui vont aussi faire avancer les choses en créant des marques spécialisées, parce qu'aussi, c'est les personnes les mieux placées, je pense, pour lancer aussi des affaires là-dessus. Et je trouve que, en termes de, comment dire, de peut-être d'éthique, c'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus sain, voilà, de se dire qu'une personne issue d'une communauté va créer des produits parce que elle fait partie de cette communauté, elle sait de quoi elle parle, et puis en plus elle a envie de favoriser, enfin d'aider et de répondre à des besoins de cette communauté. Je trouve que voilà, il y a une logique qui est plutôt saine, et que au moins s'il y a du business à se faire, on sait aussi qu'on aide des personnes issues de notre communauté. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est plutôt intéressant aussi comme de consommer. Voilà.
Ouais, c'est clair. Après aussi, justement, j'étais tombée sur un article du West France, qui date de 2017 quand même, mais en fait qui disait que les coiffeurs afro n'étaient pas perçus par l'État. En fait. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu penses de ça aussi, en fait? Parce que tu parlais justement du fait que ces personnes-là pouvaient, en fait, justement aider leur communauté, tout simplement, en par exemple ouvrant des salons de coiffure, etc. Le problème, c'est que l'État ne les finance pas non plus, et donc du coup ça met encore plus en valeur ce message de qui n'est pas d'hypocrisie, justement, dont tu parlais tout à l'heure.
Ah oui, alors j'avoue, je suis pas spécialiste des salons de coiffure et je connais pas en détail le sujet, mais peut-être qu'il y a aussi il y a ce truc de se dire, bon, nous, ça nous intéresse pas de coiffer des cheveux noirs. Donc, pour le dire très grossièrement, on va laisser les noirs se coiffer entre eux. Et puis, en fait, on va les laisser faire. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que le communautarisme est souvent critiqué parfois. Mais que là, par contre, ça arrange que les choses se fassent entre personnes d'une même communauté. Bref, passons. Mais en fait, ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est que... au-delà justement de continuer à conserver ce communautarisme et de se dire les noirs vont se coiffer dans des salons de coiffure noirs et les blancs et le reste de la population qui n'a pas un cheveu noir va se coiffer dans des salons
de coiffure
classiques, entre guillemets. Peut-être que c'est aussi au niveau de la formation, en fait, des personnes qui font ces métiers-là, où on peut se dire, quand même, en fait, on vit dans un pays qui accueille une diversité de gens et que peut-être ce serait bien de penser à la diversité de cheveux et qu'on forme des professionnels qui savent coiffer cette diversité de cheveux. Et que, à l'intérieur d'un même salon, peut-être qu'on aura aussi des spécialistes. Peut-être que ça va passer par ça d'abord. Ça va être des spécialistes du cheveu noir, comme il y en a qui sont spécialistes de coupe sur cheveux secs. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura dans chaque salon des spécialistes. Et ce qui permettra aussi de mélanger un peu plus les gens et de sortir de cet aspect communautaire, même si je peux comprendre aussi que ça fasse du bien aux personnes qui restent aussi dans ces lieux-là, dans ces cercles-là. Mais je pense que c'est aussi une manière de se rendre plus visible et de forcer l'acceptation de nos existences. C'est un peu comme cette question de la non-mixité. Ou mixité choisie, où on sait que ça pose beaucoup de débats, et où en fait on est là, on dit l'idée c'est aussi, c'est pas de rester à vie en non-mixité, l'idée c'est qu'à la fin ça se mélange. Donc c'est pour ça aussi que je dis que peut-être que si on commence à penser dans la formation, intégrer ces paramètres-là, ces spécificités-là, on pourra avoir des salons de coiffure qui accueilleront des clients et des clientes beaucoup plus diverses et que tout le monde pourra se retrouver dans ces lieux-là, quoi.
Ouais, donc c'est plus un problème politique aussi.
Ah oui, clairement, je pense. Enfin, en tout cas, j'avoue, je ne connais pas très bien le financement des salons de coiffure et comment ça se passe, mais par contre, il y a cette espèce de ségrégation-là qui est faite, ça c'est sûr, c'est la construction de notre système, quoi, plan.
Exactement, oui. Et au final aussi, on peut voir qu'au final, ça relève aussi d'une vision des communautés africaines et, comme tu as dit, du communautarisme au final, qui laisse beaucoup un impact négatif et justement qu'on n'ose pas aller voir. Et c'est comme ça qu'encore on a des remarques ou des gens qui y touchent nos cheveux par exemple et qui nous font des remarques. À la base sont innocentes et curieuses, viennent de la curiosité, mais au final qui révèlent tout simplement ce problème.
Carrément. Oui, non, il y a un peu un côté oh, mais quel est donc cet animal sur qui a sur ta tête. Enfin, moi, c'est ce que je dis à mes propres cheveux, mais je m'adresse à moi-même, quoi. Je suis pas du tout dans ce rapport-là avec avec d'autres gens. Et en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc de la différence, en fait, tout simplement. C'est ça à la base.
Tout simplement.
Mais juste de savoir comment est-ce que ça se gère, en fait. Évidemment qu'on est toutes et tous différents, différentes, mais que ce serait intéressant, en fait, de pas le faire sentir à des personnes qui déjà souffrent en fait de cette différence là. Parce que j'allais dire je vais pas aller toucher des cheveux très très blonds de personnes en leur disant oh là là, mais tes cheveux sont vraiment super blonds. C'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est possible que ça arrive, mais je pense qu'il y a aussi ça reste une sorte de respect en fait à l'origine chez les personnes noires, ça a souvent aussi été associé à une espèce d'animalisation en fait de leurs êtres. C'était un peu des bêtes de foire, quoi. Quand on voit qu'il y avait des personnes noires qui étaient montrées dans des cirques ou des choses comme ça, ça, c'est aussi vachement rattaché à ça. Et là où du coup, les gens aujourd'hui ne se rendent pas forcément compte de l'impact de ces petites phrases, en fait, ça résonne aussi avec ce contexte. Ça vient pas de nulle part, quoi, non plus. C'est pas juste ah tiens, c'est marrant, c'est différent. C'est aussi parce qu'on a été habitué à montrer du doigt cette différence-là et du coup à ne pas forcément considérer la personne et à lui demander si on peut lui toucher les cheveux. Très bien. Ça vient de très très loin en tout cas, tout ça.
Exactement. Eh bien, merci à toi. Merci beaucoup à toi.
Avec plaisir.
Est-ce que tu peux nous rappeler ton actu un petit peu ?
Ah, mon actu.
Ouais.
Je n'ai pas d'actualité personnelle. Mais par contre, si jamais ça vous intéresse, les questions d'égalité, je vous invite à aller jeter un œil quand même au réseau pour lequel je travaille, qui s'appelle She Said So France. Qui travaille donc dans l'industrie de la musique, parce que même si des fois on va traiter de problématiques qui sont liées à la musique, on parle aussi de questions plus larges, de comment est-ce qu'on peut changer notre manière d'être au travail, ou enfin voilà, comment est-ce qu'on peut lutter contre les stéréotypes de genre. C'est pas vraiment une actu, c'est plus un conseil. Je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'on fait et à peut-être rester ouvert autant qu'on peut et à se dire qu'on apprend toujours plein de choses de la part de plein de personnes. Voilà, écoutez les gens, c'est très important.
Très bien, et merci à toi Solange. Et on arrive bientôt au speed des catégories.
Legacy, le rendez-vous culturel afro de Radio Campus Angers.
Chaque semaine, je vous présente des infos fraîches autour d'événements, d'artistes ou d'œuvres, aussi bien à l'échelle locale, mondiale que mondiale, et toujours en rapport avec la culture noire. Cette semaine, dans la catégorie coup de cœur, réalisé par James Gray et sorti début novembre, le film Armageddon Time connaît déjà un grand succès en nous racontant l'histoire de Paul, un enfant issu d'une famille juive ayant vécu l'immigration massive de la fin du 19e siècle. Avec son meilleur ami d'origine afro-américaine, tous les deux cancres de leur classe, ils enchaînent bêtise sur bêtise jusqu'à ce que la réalité de leur société les rattrape. Par ce drame intimiste qui balance entre insouciance infantile et intégration et lien d'attachement familial, il nous évoque des faits et des problèmes sociétaux, comme la poursuite de l'American Dream, le racisme, l'antisémitisme ou encore le paternalisme familial, par le biais d'une mise en scène très qualitative en nous plongeant dans l'univers du Queens des années 1980. Se traduisant comme le film le plus personnel que le réalisateur ait vécu fait, certains évoquent même le terme d'ailleurs d'autobiographie, car énormément de détails du film se confondent d'ailleurs avec l'histoire de James Gray. On passe à l'icône de la semaine. Considérée comme la femme la plus influente de sa génération, et c'est pas moi qui le dis mais le magazine Time, Zendaya, 26 ans, est une actrice, chanteuse, danseuse et mannequin de renom, en s'étant fait connaître via Disney Channel lors de son enfance. Elle participe maintenant activement, d'ailleurs en tant qu'actrice, aux bandes originales de ses films. Elle apparaît sur des tapis rouges du Met Gala ou des Oscars, toujours vécue de manière originale, ou encore elle nous offre des imitations qualitatives de Bruno Mars lors de sa Lip Sync Battle de 2017, dont la vidéo a d'ailleurs été vue plus de 23 millions de fois. Ce qui fait d'elle maintenant une des jeunes actrices les plus populaires et polyvalentes, et depuis enchaîne les nominations. Elle a d'ailleurs remporté 2 Emmy Awards cette année pour avoir interprété le personnage principal de Rue Bennett dans la série de renom Euphoria. Pour la suite, on ne sait pas ce qui arrive la concernant, mais on reste à l'affût. Ensuite, dans la catégorie à découvrir, la mini-série Self-Made, sortie en 2020, nous compte la biographie de Madame C.G. Walker, ayant bâti un empire entrepreneurial autour de la beauté et du cheveu crépus, qui fait d'elle la première femme noire américaine millionnaire du XXe siècle. Magnifiquement interprétée par l'actrice Octavia Spencer, qui a d'ailleurs reçu un Emmy Award pour ce rôle, ce drame comporte quelques éléments fictifs qui n'ont pas échappé aux yeux de la critique. Cependant, cette histoire traitant de racisme, de sexisme au sein du business entrepreneurial révèle aussi la vie de Sarah, aka Madame C.G. Walker, sous ses traits les plus intimes, en abordant notamment sa maladie, son divorce et aussi sa relation avec sa fille qui entretenait des rapports amoureux avec une femme. Et je crois qu'elle est toujours disponible sur Netflix. Pour le gossip de la semaine, après le comeback iconique de Beyoncé cet été avec son album Renaissance, une autre nouvelle est tombée il y a quelques jours. Elle et son mari, le rappeur Jay-Z, seraient en train de préparer un nouvel album commun. Et après la masterclass de leur album Everything is Love de 2018, eh bien on peut s'attendre, je pense, à du très très lourd. Pas de date annoncée pour l'instant, mais je pense qu'un retour des The Carters, d'ailleurs qu'on a écouté plus tôt, ne nous ferait pas de mal du tout. Et enfin, je vous présente le nouveau phénomène à suivre de près. Donc c'est Lucène de Yakuza, ou de son vrai nom Marie-Pierre Kakoma, qui est une artiste congo-belge et rwandaise. Chanteuse, rappeuse, compositrice et aussi mannequin, et gérée de la maison Louis Vuitton, son succès sur la scène francophone remonte déjà à 2019 avec son single Dilemme. Et depuis, elle enchaîne les projets musicaux. Passionnée de manga et de culture japonaise, elle est aussi très influencée par son héritage culturel congolais. Et sa musique varie ainsi entre ces deux univers, avec une musicalité inspirée de son pays natal, composée de beaucoup de messages spirituels qu'on retrouve au sein de ses paroles. En collaborant avec des artistes italiens, nigériens, mais aussi avec des rappeurs comme Hamza ou Benjamin Epps, sa discographie est déjà bien complète et je vous laisse aller découvrir son dernier album Yota, sorti le 11 novembre de cette année. C'était le speed des catégories.
This is for legacy. Don't get it twisted now. Look how I put it down. Look how we getting down.
Eh bien, on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais avant ça, on va se quitter sur l'événement traditionnel, le son de la semaine. Ce fameux titre, d'ailleurs, c'est celui de Lucène de Yakuza, qui est sorti le 2 septembre de cette année, et en fait avec Adekundel Gold. Tout de suite, vous écoutez Handle Me.
What have you done, have you done, have you done, have you done to me? Have you done to me?
In the night time, I hear you calling to me.
far, but I feel you near. Your body, my maleficent. The way you went, baby, girl, caliente. Caliente, baby, caliente. Big body, smally. You make the place today jolly. Oh, baby, you fuck by me. Cause you make your fuck by me. Girl, when you touch me, I'm feeling weak. How did you bring me down to my knees? How did you bring me down to my knees? How did you bring me down to my knees? What have you done, have you done, have you done, have you done to me? Have you done to me? Yeah. I can understand, understand how you think you can handle me. You can handle me. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quand mon attention est sur toi, je ne veux pas en rester là. J'ai envie de bien plus que ça. Je sonne et ça fait ding ding dong. You wanna see me in my phone? You can hear it in my song, song. Yeah, yeah, yeah. J'ai un truc pour les players. Ensemble et je suis ailleurs. You're the only one I will wait for. Quand je suis tienne, je veux que tu m'aimes. Babe, quand tu m'appelles, je veux que tu m'aimes. Si tu ne crois pas.
Girl, you touch me, I'm feeling weak. How did you bring me down to my knees? How did you bring me down to my knees? How did you bring me down to my knees?
What have you done, have you done, have you done, have you done to me? Have you done to me? Yeah.
Et c'est sur ce morceau que l'on va se quitter. Mais avant, je tenais à te remercier, Solange.
Merci, ouais. Pauline, pour cette invitation.
Tout simplement pour nous avoir fait honneur de ta présence ce soir. En tout cas, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. Et pour rappel, Legacy est diffusé tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 19h à 20h. Merci à vous.
Retrouvez Legacy en podcast sur www.radiocampusangers.com.